Merci beaucoup à votre pasteur pour son accueil. Je suis très heureux d'être là avec vous. Bonjour. Vous allez rester avec moi, d'accord? Donc, vous ne faites pas vos emails pendant que je prêche, vos SMS, d'accord? Faites pas comme moi, ok? Donc, parce que moi, ça m'arrive de le faire des fois. Mais c'est normal, c'est parce qu'il faut que, des fois que je regarde si tout marche bien. Et vous allez voir certaines choses qui se passent avec Internet. Je suis très heureux d'être là avec vous pour célébrer le Seigneur. J'ai beaucoup apprécié le moment de louange. Merci beaucoup à l'équipe de louange, aux musiciens. C'était vraiment super, des très beaux chants. J'apprécie votre église. J'en entends parler beaucoup. Et je bénis Dieu pour ce qu'il fait ici avec vous à Créteil et ce qu'il fait aussi par vous. J'apprécie beaucoup votre pasteur qui n'est pas très typique non plus, il faut le dire. Et aussi Eric et Rachel Dufour. Je suis venu cet été en fait à un culte. J'étais pas venu en reconnaissance, mais comme je savais que Eric prêchait là, donc j'étais venu et je me suis fait beaucoup de bien avec vous. Et aujourd'hui, Eric et Rachel partent au Laos pour 2 mois. Donc vous penserez bien à prier pour eux. Je les aime beaucoup et je pense que ce qu'ils font est vraiment super et que ici vous soyez leur église de rattachement en France, eh bien c'est vraiment une bonne chose. Merci beaucoup pour eux, c'est vraiment super. Donc merci encore pour cette invitation Yvan que j'apprécie beaucoup. C'est assez rare que j'aille prêcher dans des églises, surtout 3 cultes. Je le fais généralement jamais parce que je suis toujours en déplacement un petit peu partout, et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. On va mettre quelque chose sur l'écran, là, avec notre ami à la technique. On va vous mettre Google Earth. Vous avez tous entendu parler de Google, et Google Earth, eh bien, ça permet de voir le globe. Mais ce que vous allez voir ici, donc, voilà, ce que vous allez voir, donc, vous reconnaissez la France? Oui, toute petite, hein? Voilà. Super. En fait, c'est en train de bouger parce que ça va nous montrer la dernière personne qui vient d'accepter Jésus sur un de nos sites. C'est en temps réel, c'est maintenant. En Chine, quelqu'un vient juste maintenant, à l'instant, de dire oui à Jésus. Et chaque fois que ça va bouger, c'est que quelqu'un accepte Jésus. Derrière son ordinateur, sur un des sites Connaître Dieu. Vous avez entendu parler de Top Chrétien il y a quelques instants. Vous avez peut-être entendu parler aussi du site Connaître Dieu, et c'est un site qui existe aussi en chinois, donc qui s'appelle Zhenxishen, et ça veut dire connaître Dieu, je pense. Mais ça existe aussi en arabe, en russe, en polonais, en hindi, et dans une 20aine de langues. Ça a commencé en 2005, donc c'est pas très vieux. Ça a craché? C'est trop puissant. Hein c'est trop fort. Il va nous le remettre. Donc, chaque fois que vous verrez que ça bouge sur un petit point bleu comme ça, c'est quelqu'un qui vient d'accepter Jésus. Et tous les petits points orange que vous allez voir apparaître, c'est les gens qui ont accepté Jésus dans les dernières 24 heures. Hier, par exemple, il y a à peu près 7000 personnes qui ont accepté Jésus sur un connaître Dieu. Et là, c'est en Biélorussie, dans notre site russe qui s'appelle Poizboga. Et je pense que ça veut dire connaître Dieu. Donc, gloire à Dieu. Il y a des gens qui viennent à Jésus. Dieu est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. La Bible dit que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et je vais vous dire que quand tout ça a commencé, dans ma salle à manger il y a quelques années, et je vais vous partager ça un petit peu, j'imaginais pas du tout qu'un jour il y a des Chinois qui accepteraient Jésus, ou des Biélorusses, ou des gens un petit peu dans le monde entier. Et là c'est calme parce que c'est le matin, les gens ils se connectent plutôt le soir, mais bien que ça commence à être le soir en Chine. Alors, donc ça risque de bouger un petit peu plus du côté soir que du côté matin. Donc les gens viennent à Jésus, c'est super, non? Ils sont là. Ils cherchent Dieu sur Internet, ils tapent Dieu, Bible, Jésus, comment être heureux. Ils trouvent le site, ils font un parcours qui leur présente l'évangile, ils acceptent Jésus à la fin, ils nous laissent leurs coordonnées et quelqu'un localement dans le pays va faire le suivi. une petite idée de combien déjà ont accepté Jésus depuis 2005 que le premier connaître Dieu a vu le jour? Non? Allez, dites un chiffre, c'est pas grave si vous vous trompez. <rire> 4 millions. Gloire à Dieu. Et c'est juste le début, hein. Mon but ce matin, c'est de stimuler votre foi. J'aimerais que vous ressortiez de ce culte avec une foi stimulée, que Dieu est un Dieu vivant, qu'il est agissant, qu'il est puissant et qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. J'aimerais que vous soyez boostés. Vous comprenez le mot boosté? Dites boosté. J'aimerais que vous soyez boostés dans votre foi. Il faut que votre foi se réveille parce que Dieu est un Dieu de miracles. Et la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Combien croient ici? Bon, alors il y a des miracles qui doivent vous accompagner. Alors on connaît ce passage, et c'est un passage qui se trouve dans Marc 16, 10. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et moi je vais vous le lire dans une autre traduction, comme ça. Et si ça crache, tu peux remettre Google Earth, hein, à chaque fois, c'est pas grave. On va vous le remettre de temps en temps. Je vais vous le lire dans Parole de vie. Ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. Parce que nous sommes appelés à montrer la gloire de Dieu, à manifester que Dieu est vivant. Comment Dieu montre qu'il est vivant? Par vous, par moi, par son Église. Voici ceux qui croiront, comment ils montreront la gloire de Dieu. Ceux qui croiront, en mon nom, ils chasseront les mauvais esprits, ils parleront des langues nouvelles, ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal, ils poseront la tête sur des malades, et les malades seront guéris. Ah, vous connaissez tout ça, hein? Moi, je ne pense pas que ça soit une liste limitative. C'était juste une petite introduction des miracles qui allaient accompagner ceux qui auront cru. En fait, boire des breuvages mortels, saisir des serpents, certainement, à une certaine époque, c'était super utile. Aujourd'hui, on dirait s'ils boivent du Coca-Cola, cela ne leur fera aucun mal. Non. Aujourd'hui, vous comprenez qu'on vit dans une autre époque, mais le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Simplement, les miracles sont adaptés à l'époque. Peut-être qu'à l'époque, on empoisonnait les chrétiens, on leur faisait boire des breuvages mortels. Ou peut-être que si on était dans certains pays aujourd'hui, bien, ça serait très utile de pouvoir saisir les serpents et que ça ne nous fasse aucun mal. Mais combien n'ont pas vu un serpent face à face, au moins dans les 12 derniers mois? Donc beaucoup. Vous comprenez que saisir les serpents, ce n'est pas nécessairement un signe très, très utile pour nous. Mais il y a des miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Et toutes sortes de miracles. En fait, la Bible parle des manifestations de l'Esprit. Le contexte dans lequel ce verset est donné, c'est celui-ci. C'est quand Jésus dit « Allez ». Voilà. Jésus leur apparaît, et puis il leur reproche leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Donc c'est dans un contexte. Jésus est mort, il est ressuscité, il est vivant. Et puis il y a des gens qui l'ont vu vivant, des disciples qui vont le dire à d'autres disciples, et ces disciples-là ont du mal à croire. Et j'espère que ce matin, dans l'église de Créteil, vous n'allez pas avoir trop de mal à croire ce que je vais vous partager. J'espère que vous allez avoir la foi. Sinon, à la sortie, vous avez quelqu'un, Jésus, qui va vous reprocher votre incrédulité et la dureté de votre cœur. Ce ne sera pas moi, d'accord? Jésus leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». C'est dans ce contexte-là, allez par tout le monde, celui qui croira et qui sera, vous pourriez même le dire avec moi, hein, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et là, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc voilà, dans l'évangile de Marc, c'est les dernières paroles que Jésus dit avant de monter au ciel. Donc, on sait tous que les dernières paroles de quelqu'un sont très importantes avant qu'il quitte cette terre. et en particulier quand il s'agit de Jésus. Et la Bible nous dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils y vont et Dieu les accompagne. Et c'est ça que je vais partager pendant quelques minutes de témoignage. Lorsque j'étais un jeune chrétien, je venais juste d'être baptisé, je suis parti au service militaire. Et pendant mon service militaire, mon père m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser. Mes parents avaient divorcé quand j'avais 10 ans. Et pendant des années, je n'ai pas eu de nouvelles de mon père, ce qui était très difficile pour un enfant et ensuite pour un adolescent. Et tout d'un coup, il reprend contact et il me dit « Eric, j'ai une proposition à te faire ». Mon père était un businessman avec beaucoup de succès dans ses entreprises. Avant ça, il travaillait dans le secteur bancaire, il s'occupait de l'informatique. Et ma mère était aussi ingénieure en informatique. Donc vous allez comprendre pourquoi les ordinateurs et moi, ça connecte assez bien. C'est dans mes gènes. Et il prend contact avec moi, il me dit « Écoute, tu fais ton service militaire, j'ai une proposition à te faire. Si tu veux, après ton armée, je te paye une université d'informatique. » Et c'était il y a 30 ans. Et à l'époque, l'informatique, Internet, bien sûr, on n'en parlait même pas, hein, ça n'existait pas. Les téléphones portables non plus. Enfin, c'était une autre époque, quoi, un peu la préhistoire. Mais il y avait déjà des ordinateurs. Ma mère, qui était ingénieure, donc elle s'occupait d'ordinateurs qui avaient à peu près cette puissance, mais qui remplissaient cette pièce. Difficile à mettre dans sa poche. Hein. Et donc, il me dit, viens voir. Donc, je vais voir. Et puis, c'était une super université. Et puis, il me payait l'appartement, il me payait le permis de conduire. En attendant que j'ai le permis, il me payait le scooter. Et puis l'appartement était dans le même immeuble que le maire de Toulouse. Et Toulouse, c'était ma ville. Donc vraiment, tout était parfait. Alors j'ai dit oui à mon père. Et puis ensuite, je suis retourné au service militaire. Et là, j'ai commencé à remercier Dieu. Seigneur, merci pour cette... J'avais juste oublié un petit détail. C'était quoi le détail, à votre avis? J'avais oublié de demander à Dieu. Qu'est-ce qu'il en pensait, lui? J'avais juste dit... Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Et puis quand j'ai commencé à prier comme cela, la paix est partie de mon cœur. Vous avez remarqué que des fois Dieu nous parle comme ça, il enlève la paix, on n'a plus la paix. Hein? On prend une décision, puis après on remercie Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'était pas, c'était pas la volonté de Dieu. À États-Unis, ça dans notre site aux États-Unis. Ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait... que je lui demande sa volonté et que je fasse sa volonté. Alors, j'ai bataillé pendant quelques semaines et puis au bout de quelques semaines, finalement, j'ai dit à Dieu, « Ok, qu'est-ce que t'en penses, Seigneur ?» Et immédiatement, cette pensée est venue en moi, « Ce n'est pas ma volonté, retourne chez ta mère. » Et vous savez que « retourne chez ta mère », c'est une insulte. Hein? En plus, « retourne chez ta mère en région parisienne », deux insultes dans la même phrase. Parce qu'entre Toulouse et Cergy-Pontoise, vous voyez, il n'y a pas photo, quoi. C'est comme entre la Guadeloupe et la région parisienne. La température de l'eau n'est pas la même. Donc, moi, j'ai eu du mal. J'ai bataillé quand même, pour être honnête, quelques semaines. Et puis, au bout de quelques semaines, j'ai capitulé. Je dis à Dieu, bon, après tout, c'est toi qui décides. Je veux bien t'obéir. Bon, j'ai appelé mon père. Et ça a été vraiment très difficile, parce que mon père n'était pas croyant, et je ne pouvais pas lui dire, « Papa, Dieu m'a parlé, il m'a dit de ne pas venir à Toulouse, il m'a dit, retourne chez ta mère. » Donc comment vous expliquez ça? C'était ma faute, je m'étais engagé, j'avais dit oui avant, alors c'est difficile de se dégager après. Donc je lui ai dit, non, j'ai réfléchi, il me dit, « Mais qu'est-ce qui manque? Dis-moi, mais attends, je t'embauche après dans mes sociétés, après tu prends la... c'est toi qui contrôles tout, oh, ils m'ont rajouté encore. » Ah, mais Dieu m'avait dit non. Alors j'ai dit non, je suis vraiment honoré, merci beaucoup, mais je ne peux pas accepter, je dois faire d'autres choix. Et pendant plusieurs années, il ne m'a plus parlé. Donc c'était un choix qui m'a vraiment coûté. Et puis je suis retourné en région parisienne et pendant 6 mois, j'étais au chômage. Et là, je ne comprenais pas. Je faisais des lettres de candidature, tout était refusé. Et je disais, Seigneur, je ne comprends pas parce que toi, tu m'as dit, retourne chez ta mère. Et c'est pour être au chômage, alors que je pourrais être dans une super université, dans un super appartement avec la musique dans l'ascenseur. Hein, c'était vraiment classe, quoi. Donc, j'étais pas très, très, très heureux, à vrai dire, avec ça. Et dans ce temps-là, Dieu m'a appelé à le servir. un soir dans une réunion de prière de mon église, Dieu m'a parlé clairement. Et à travers un verset dans Ésaïe 42, où il est dit, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main et je t'établirai pour être une lumière parmi les nations. » Et bien sûr, c'est un verset qui nous parle de Jésus, mais qui nous parle aussi de nous, parce que Dieu veut aussi qu'on touche les nations, qu'on aille partout le monde. Donc c'était très clair. J'étais tellement content à cette réunion de prière que quand je suis sorti, j'ai vu un chrétien de l'église. Le premier que j'ai trouvé, c'était un chrétien un petit peu âgé. Et je lui dis, frère, c'est super, Dieu m'a appelé à le servir. La réponse du frère, c'était, sûrement pas toi. Bon, il y en a qui sont visionnaires, il y en a qui ne le sont pas. Mais c'est vrai que j'étais un jeune converti, j'étais un petit peu bizarre, un petit peu foufou. Et je suis reparti chez moi, j'étais cassé. Dieu venait de m'appeler au service et je venais d'apprendre une des leçons très importantes de la vie chrétienne, c'est que vous n'allez pas toujours être encouragé par les autres pour faire ce que Dieu vous demande de faire. Combien disent Amen,
Amen.
Ok. Donc, je suis parti chez moi, j'étais tout triste. 5 minutes avant, j'étais heureux. Ah oui, Seigneur, sûrement pas moi. Et Dieu a dû me reparler une deuxième fois en me disant que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Bon, heureusement que Dieu est bon et il est fidèle. Mais j'étais toujours au chômage. Et voilà qu'un des anciens de mon église, qui s'appelle Marcel, me téléphone. Il dit, Eric, est-ce que tu cherches toujours du travail? J'ai dit, mais oui, je cherche toujours du travail. Il dit, écoute, il y a un évangéliste là qui s'appelle Billy Graham, qui doit venir en France. On était en 1986. Il doit venir et il doit prêcher à Bercy et je sais qu'il cherche des gens. Alors peut-être tu devrais te donner ta candidature. Peut-être qu'il te prendrait. J'ai dit, bon, merci beaucoup. Je ne sais pas qui c'est ce Billy Graham, mais c'est toujours intéressant si je trouve un travail. Oui, je ne connaissais même pas Billy Graham, quoi. Donc j'étais vraiment tout jeune dans la foi. Et donc, je suis allé les rencontrer, j'ai postulé et ils m'ont embauché. Et ils m'ont embauché pour 11 mois. Donc, mon premier travail dans la vie, c'était d'organiser une campagne d'évangélisation. Combien croient que c'est un bon travail? C'est pas mal quand même. Et donc, j'étais là, bon, j'avais le plus petit travail de l'équipe. On était peut-être une vingtaine dans l'équipe et on avait 10 mois de préparation pour la campagne, puis un mois pour tout boucler ensuite. Et donc, mon travail, c'était vraiment le plus simple travail, c'était de timbrer les lettres. Et j'en ai timbré des lettres. Ah ouais, c'est pas top. Hein. En plus, la machine était super bruyante, tellement bruyante qu'ils ont dit, bon, on ne peut pas le garder dans les bureaux. Donc, ils ont aménagé le garage et ils m'ont mis dans le garage. Donc, j'étais là et je timbrais. Et ils en ont envoyé des lettres, je peux vous dire. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse quand même mieux que timbrer les lettres. Alors, je priais pour les lettres. Seigneur, bénis cette personne, bénis celle-là, alléluia, je priais. Et je timbrais. Un jour, quand même, ils ont dit, Billy Graham va venir au bureau, alors c'est toi, comme tu es le plus jeune, tu vas l'accueillir. Alors, ils m'ont mis à la porte, enfin, devant la porte. Et puis, ils m'ont dit, bon, tu vas voir arriver Billy Graham. Alors, je vois arriver un grand Américain, je dis, hello, Mr. Graham, welcome. Et il me dit, non, c'est pas moi. Et je vous dis, j'étais vraiment pas doué, quoi. Donc finalement, le vrai Billy est arrivé. Ils m'ont dit, tu vas lui faire du café. Alors bon, j'ai dit, il doit être fatigué, décalage horaire, je vais lui faire un bon café, un truc super fort. J'amène le café. Un gars revient au bout de 2 minutes, il me dit, est-ce que tu veux tuer Billy Graham? J'ai dit, non, moi je veux pas le tuer. Pourquoi? Il me dit, c'est pas du café, ça. J'ai dit, mais si, c'est bon, c'est du bon café. Il m'a dit, mais non, tu connais rien, toi. Le café, ça doit avoir la couleur du thé. Un café américain. Donc, 2 erreurs le même jour, mais ils ne m'ont pas viré. Il faut dire, j'avais mauvais caractère, j'étais pas encore bien formé, quoi. Et vraiment, vraiment, j'étais jeune. Mais Dieu m'a fait cette grâce d'être dans cette équipe. Et quand c'est arrivé, donc, en 86, en novembre, octobre, novembre 86, au moment où il y avait les attentats, vous souvenez peut-être de ça à Paris, eh bien, plein de gens sont venus entendre l'évangile. Et ils m'ont fait cet honneur, quelques soirs, de m'asseoir sur l'estrade, derrière Billy. Alors je voyais ce Billy qui prêchait, la Bible dit, ta-da-da-da, et faire l'appel et voir des gens venir à Jésus. Mais alors, plein de gens, des milliers qui descendaient des rangs et qui venaient. Tous les soirs, ça durait pendant une semaine, c'était retransmis dans 20 villes par satellite, ce qui à l'époque était un exploit technologique pour des chrétiens. Et des gens venaient à Jésus de partout. Et quand j'ai vu tous ces gens venir à Jésus, moi, j'ai fait une prière sur cette estrade. Et j'ai dit, je veux être comme cet homme-là. Je veux amener des gens à Jésus. Voilà, je veux, le but de ma vie, Seigneur, c'est d'amener des gens à toi. C'était ma prière. Je veux être comme cet homme-là. Je veux même amener plus de gens à Jésus que cet homme-là. Je ne savais pas ce que je disais. Hein. Vraiment, des fois, on fait des prières bizarres. Et puis, c'est resté dans mon cœur. Puis ensuite, j'ai travaillé pendant quelques années sur Paris. Et Dieu m'a donné un bon travail près du parc Monceau, donc secteur bancaire, 6 semaines de vacances, 14 mois de salaire, et pas trop stressé au travail. Enfin, une vraie bénédiction. Je faisais les prospectus de l'église au boulot avec la bénédiction du patron. Enfin bref, Dieu m'a vraiment béni. Et j'ai rencontré une jeune femme merveilleuse. Elle viendra au culte d'après, Muriel, mon épouse. Et je ne l'aurais pas rencontrée si j'étais parti à Toulouse. Vous voyez, si j'avais dit « Ah, c'est super, merci Seigneur, l'appartement, le travail, tout ça », je n'aurais pas rencontré ma femme et je ne serais pas en train de vous parler. Top chrétien n'existerait pas et connaître Dieu non plus. Et tous ces gens ne seraient pas venus à Jésus comme ça. Donc c'est important d'écouter Dieu, c'est important de lui demander son avis. Donc on s'est fiancés et puis on a fait notre voyage de noces à l'école biblique. Ouais, je sais, c'est pas très romantique. C'est parce que j'avais un devoir à rendre et c'est, pour moi c'était super important. Il fallait absolument que... je me souviens du titre du devoir, c'est « Vous devez expliquer en 10 pages les preuves logiques de l'existence de Dieu, sans utiliser d'arguments spirituels, juste les preuves logiques. » Waouh! J'ai dit à ma fiancée, je suis désolé, il faut qu'on aille à l'école biblique, j'ai un devoir à rendre. C'était notre voyage de noces. J'ai été encore un peu stupide, franchement. Parce qu'entre-temps, le prof a craqué, il a quitté l'école et on n'a jamais eu le résultat du devoir. Donc je sais que c'était vraiment un petit peu stupide. Quand on a quitté l'école biblique, on est parti dans le ministère pastoral. Et puis on a suivi le cursus stagiaire. Et c'était très intéressant, très bien. Puis un jour, on était pasteur dans une église et Dieu nous a dit, vous devez quitter votre église et aller ouvrir une église dans une ville où il n'y en a pas, qui s'appelle Givors, une ville communiste. Et puis vraiment, c'était une parole forte de Dieu. Dieu m'a parlé dans Malachie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et c'était une parole, on était en train de prier avec un autre pasteur et Dieu nous donne le même verset dans Malachie chapitre 3 au même moment. Donc ce n'est pas quelque chose, vous pouvez penser à Malachie des fois dans vos prières, mais deux qui pensent en même temps. Donc c'était vraiment une direction de Dieu et Dieu me disait en gros, tu quittes l'endroit où tu es, tu vas là-bas, tu ouvres une église et tu y vas par la foi. Et on est parti avec rien, c'est-à-dire il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas, il fallait même que je laisse la voiture, puis c'était la voiture de l'église. Pas de salaire, rien, c'était vraiment un pas de foi. Et je ne peux pas vous raconter toute cette histoire, mais c'était une ville communiste dont la mairie était opposée à l'évangile et la première personne que Dieu a touchée, c'était le maire. Et d'une façon inattendue, parce qu'on avait prévu une mission d'ouverture avec des Péruviens, et donc je suis venu voir le maire avec un pasteur péruvien, et quand le maire a entendu dire qu'on voulait ouvrir une église, il n'était pas content, mais quand il a entendu que c'était des Péruviens, il a dit « c'est mon pays préféré au monde, j'aime le Pérou », tout ça, donc des circonstances. Et je me souviens du maire qui dit, il s'appelle Martial, il dit « qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Alors là, il ne faut pas demander ça à un pasteur. Hein. Vous pourriez peut-être nous autoriser à faire une soirée en face de la mairie sur la place du marché. Il dit, bien sûr. Mais comme vous allez venir devant la mairie, venez donc dedans. Je vais faire un pot d'accueil pour vous accueillir comme pasteur de la ville. Et donc, j'ai commencé le ministère dans cette ville par un pot d'accueil. Et on a fait... Ensuite, il dit, vous voulez pas autre chose? Puisque vous insistez. Alors... Est-ce qu'on pourrait avoir une salle municipale? Il dit, bien sûr, laquelle vous voulez? Alors je dis, celle-là, la 300 places. Oui, je vous la mets gratuitement. Vous voulez autre chose? Oui. Hein. Donc on a demandé tout ce qu'on a pu. Et en fait, dans cette salle, il est venu entendre l'évangile avec sa femme. Il était au premier rang. Et on avait notre Péruvien qui prêchait. Gilmer Roman, il s'appelle. Ne vous confiez pas dans l'homme. Ne vous confiez pas dans la politique. Ne vous confiez pas... Et moi, j'étais assis à côté du maire et je disais, Seigneur, oh, pardon. Je me repentais déjà parce que je me disais, ça ne va pas le faire, quoi. On invite le maire communiste et on essaye d'être gentil quand même. Et lui, il dit, vous ne confiez pas dans l'humanisme et toutes ces bêtises, confiez votre vie à Jésus, alléluia. Quand la réunion a été finie, que je suis monté sur l'estrade, ma foi était vraiment à râler pâquerette. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et puis je vois le maire qui est là juste devant. Je dis, monsieur le maire, peut-être vous voudriez dire un petit mot. Et lui monte sur l'estrade et dit, j'ai été touché par les paroles fortes du pasteur. Ah, ma foi, tout d'un coup, est remontée. Alléluia. Ma foi a augmenté. Et là, je me suis souvenu d'un bon conseil d'un ami, quand tu ne sais pas quoi faire, fais une offrande. Et j'ai dit, nous allons faire une offrande. Et le premier chèque, le premier don qu'on a eu pour l'église, la nouvelle église, c'était la femme du maire qui l'a fait. Voyez, donc ça, et c'est, je vous raconte ça parce que c'est dans cette ville qu'on a, on a démarré le premier site internet pour présenter en fait l'église. Et ça, c'était en 97. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de site comme ça qui existait, de site d'église. Donc j'ai fait le site et puis je me disais, voilà, des gens de Givors vont venir sur le site et découvrir l'église. Aujourd'hui, c'est vrai, mais à l'époque, il n'y avait personne qui utilisait internet. J'étais le seul. Et le premier qui nous a contactés en disant « J'aimerais visiter votre église », il ne parlait même pas français. Il m'a écrit en espagnol. En fait, c'était un Brésilien, un prof d'espagnol, qui voulait venir un mois en France. Et donc, il a trouvé le site de Givors et il a écrit, il a dit « Est-ce que, voilà, j'aimerais venir ?» On lui a dit « Bienvenue !» Et il est venu pour un mois chez nous. Il s'appelle Gilberto Luciano dos Santos. Et ça, c'était très intéressant parce que j'ai eu ma première leçon d'Internet à ce moment-là. C'est des personnes réelles et en même temps, c'est international. Voilà. Et donc, Gilberto est venu chez nous. Donc, il faut imaginer un Brésilien avec les cheveux un petit peu longs, genre Babacool, qui débarque à l'aéroport. Les douaniers l'ont fouillé pendant une demi-heure, étant convaincu qu'il passait de la drogue. Mais en fait, c'était un gars super, un gars qui aime Jésus. Il avait juste les cheveux un peu trop longs, mais ben, ça, c'est à mon goût à moi, mais aussi hein, c'était normal. Et il aime Jésus et il est chez nous pendant un mois. Il est tout le temps en train de prier, tout le temps en train de jeûner, ce qui coûte pas cher en nourriture, c'est super. Et puis, il me parle de ce que Dieu fait au Brésil. Et moi, pour moi, ça m'ouvre les yeux. Quoi. Je me dis, waouh, Dieu est à l'œuvre. Il me parle de nous, on est là. Bon, gloire à Dieu pour ce qu'il fait en France, mais là-bas, c'est des millions et des millions de gens qui ont accepté Jésus, ils me racontent. Et pour moi, ça, c'est mon premier contact sur Internet, vous voyez. Et c'est, ils m'invitent au Brésil, ils me font prêcher devant 100 000 personnes. Vraiment, ils étaient peut-être plus que ça encore. C'était énorme. Et c'était juste mon premier contact d'Internet. Et puis, un ami pasteur, Fabien Créteur, me téléphone et dit « Eric, on n'a pas de site pour les chrétiens, il faudrait que tu en fasses un. » J'ai dit « J'y connais rien. » Il me dit « Si tu t'y connais, tu es le seul qui a un site. » Alors j'ai dit « Bon, c'est vrai ça, peut-être qu'il faudrait faire un site pour les chrétiens. » Il me dit « Je connais une chrétienne en Suisse, elle pourrait t'aider. » Donc je la contacte et puis elle accepte d'aider. Et c'est comme ça qu'est né Top Chrétien, en 99 chez les Suisses. Et cette première bénévole était en train de faire un doctorat en statistique. Son mari avait une société d'hébergement Internet. C'était la personne parfaite. On a travaillé pendant 6 mois à distance pour que le Top Chrétien naisse. Et en fait, je lui envoyais les idées, elle les programmait. Et en juillet 99, Top Chrétien est né. Donc, bien sûr, personne ne connaissait, c'était tout petit. La semaine où on devait lancer Top Chrétien, j'étais vraiment pas en forme. J'ai fait des examens, on a découvert que j'étais très malade. Les médecins ont découvert que ma thyroïde ne fonctionnait plus, mes glandes surrénales ne fonctionnaient plus, j'ai dû être hospitalisé en urgence, sous traitement de choc, près de mourir en fait, tout près de mourir. Et c'est cette semaine-là, que pendant que j'étais à l'hôpital, qu'on a ouvert Top Chrétien. Quand je suis sorti de l'hôpital, je suis allé au CIGEM, un rassemblement de jeunesse, où j'allais tous les étés. Et un infirmier même a dû m'accompagner. J'étais très faible, j'étais sous un traitement de cortisone, assez violent. Et un pasteur est venu me voir, il m'a dit « J'ai reçu une parole de Dieu pour toi. » Alors moi, j'aime les paroles de Dieu. Et quand quelqu'un vous dit « J'ai une parole de Dieu » et que vous êtes très malade, vous vous attendez à quoi comme parole? Ah, on est pareil. Hein. Par exemple, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Ah, vous la connaissez vous aussi. Et donc ce pasteur, Serge Santander, est venu me voir. Et il m'a dit « Eric, j'ai une parole de Dieu pour toi. Ah, alléluia, vas-y, dis-moi. » Et la parole, c'est « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Je lui ai dit « T'en as pas une autre ?» J'aimais pas trop cette parole-là, hein, à vrai dire. J'ai presque envie de dire « Arrière Satan ». Mais en fait, Dieu avait permis ça parce qu'il savait le développement que ça allait prendre et il fallait que ça soit par sa grâce et pour sa gloire. Parce que moi, j'avais aucune idée dans les premiers jours de ce que ça allait devenir. La première année, on n'a eu que 100 000 visites sur Top Chrétien. Mais aujourd'hui, par exemple, Top Chrétien, chaque mois, c'est plus d'1 million. Et les gens ont commencé à se connecter à Top Chrétien, à être encouragés. J'allais prêcher en région parisienne chez un pasteur qui s'appelle Bertrand Colpier. Et puis je suis arrivé avec 48 heures d'avance, ce qui embêtait beaucoup Bertrand. Et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire d'Éric pendant 48 heures. Et puis le soir, au moment d'aller se coucher, je vois Bertrand qui tape un email. Et là, on était vers l'an 2000. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais, Bertrand, à ton ordinateur? Il me dit, tous les soirs, j'envoie une petite pensée d'encouragement aux 7 chrétiens de mon église qui ont Internet. Combien ont Internet ici? Levez la main, là. Ah ouais, tiens, ça a progressé depuis l'époque, hein. Il n'y en avait que 7. J'ai dit, oh, tu es un bon pasteur, Bertrand. Tous les jours, tu envoies une pensée. Il dit, oui, une petite pensée du jour. Ça vous dit quelque chose, une petite pensée du jour, hein? Je lui dis, wow, tu le fais pour 7. Et si tu le faisais pour 700? Il me dit, wow, 700, comment? Je lui dis, je pense que si on met ça sur Top Chrétien, il y en aurait rapidement 700 qui aimeraient recevoir la pensée du jour. Il me dit, d'accord, faisons-le. Et donc, tout le jour d'après, comme on avait toute la journée de libre, on a créé la pensée du jour. On a envoyé ça, et puis en quelques jours, il y en avait 700. Et aujourd'hui, il y en a 50 000 qui reçoivent tous les jours, plus les gens qui le lisent sur Top Chrétien. Il y en a qui reçoivent la pensée du jour? Oui? Oh, si vous ne la recevez pas, il faut vous abonner, hein, c'est gratuit. Voilà, ça c'est la puissance de Dieu a commencé à se manifester par des connexions comme celle-là, comme avec Bertrand, par des rencontres divines. Et puis un matin, alors que je priais, Dieu me donne une idée. Et l'idée, c'est la suivante, c'était de créer un parcours, étape par étape, qui allait se terminer par une prière. Et c'est devenu le site Connaître Dieu. J'étais tellement content. Ah, j'ai dit, waouh, c'est super, ça c'était vers 2001. Et donc, on a lancé dans Top Chrétien une section qui s'appelait « Devenir chrétien, c'est simple comme une prière ». Et puis en 2005, ça allait devenir le site Connaître Dieu. Connaître Dieu, donc c'est ce parcours et les gens découvrent l'évangile, acceptent Jésus. Et puis vous avez vu quelques personnes sur Google Earth qui ont accepté Jésus. J'étais tellement enthousiaste. On a lancé le site. Et puis on est là en 2005, au moment du lancement, quelques mois plus tard. Je descends en pyjama chez moi. Imaginez la scène, d'accord? Je descends et je trouve 2 Chinois dans mon hall d'entrée, chez moi, qui étaient rentrés. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? On s'est parlé en anglais. Hein. Et ils m'ont dit, on a cherché l'adresse du Top Chrétien, alors on est venu. Et j'ai dit, ah waouh, super! Il ne faut pas le dire à ma femme. Et pourquoi? Ils ont dit, voilà, parce que ce que vous faites, c'est super, on voudrait le faire en chinois. Ah bon, vous voulez le faire en chinois? Oui, connaître Dieu en chinois. J'ai dit, d'accord, pas de problème. Et on a parlé à l'équipe du Top, qui commençait à se constituer à ce moment-là, et ils ont fait le site en chinois, Zhen Shishen. Un peu plus tard, des Arabes sont venus, et ils ont dit, on voudrait la même chose en arabe. J'ai dit, d'accord. J'ai appelé les gars de l'équipe, j'ai dit, on va le faire en arabe. Ils ont dit, oulala, mais ça ne s'écrit pas dans le même sens, ça. Mais j'ai dit, c'est pas grave, vous mettez dans l'autre sens. Et on a lancé Marifat Allah. Et vous savez ce que ça veut dire, Marifat Allah? Allez. Connaître Dieu, vous êtes trop fort. Vous êtes doués pour les langues ici. Hein. On a lancé le site en décembre 2006. Et là, quand on lance un site comme ça, on attend de voir les premières personnes qui acceptent Jésus. Et qui nous écrivent et qui disent à notre partenaire j'accepte Jésus et qui demandent un suivi. Et là, on attendait et puis voilà qu'une première personne écrit, décembre 2006. Et elle dit en arabe, ils nous l'ont traduit, je m'appelle Mariana, j'habite à Nazareth, en territoire palestinien, et je voudrais avoir Jésus dans ma vie. Alors je ne sais pas, mais quand vous êtes en décembre, vous avez quelqu'un qui vous écrit de Nazareth, qui s'appelle Mariana, ce qui veut dire Marie, quoi, en gros, et qui vous dit « je veux avoir Jésus dans ma vie », vous vous dites « waouh, ça c'est vraiment un encouragement du Seigneur ». Une idée de combien de gens ont déjà visité le site en arabe connaître Dieu? J'ai regardé hier soir, presque 7 millions de personnes, 6,8 millions sont venus dans le site. Des Arabes, des musulmans, beaucoup, qui cherchent Dieu. Quand on a lancé le site en espagnol pour l'Amérique latine, En Busca de Dios, il y a une dame qui nous a écrit du Mexique et elle a dit ceci, elle a dit « J'allais mettre fin à mes jours, j'allais me suicider. Au moment où j'allais quitter ma maison, mon ordinateur s'est allumé tout seul. » Et c'est la page « Connaître Dieu, En Busca de Dios » qui est apparue. J'ai regardé le site, je suis allé à la fin, j'ai fait la prière pour accepter Jésus. « Je ne veux pas me suicider, je veux vivre. » C'est fort ça. On a même des anges spécialisés en informatique maintenant. Vous croyez qu'il y a des signes, il y a des miracles qui accompagnent ceux qui auront cru? Une fois, on allait aux États-Unis avec mon ami Stéphane, qui est directeur au Top Chrétien, et il me dit « Alors Eric, c'est quoi tes objectifs dans ce voyage ?» J'ai dit « J'aimerais vraiment qu'on soit connecté à une organisation qui s'appelle CBN, grosse télévision chrétienne américaine qui est dans plusieurs pays. » Et il me dit « Ah bon, pourquoi ?» J'ai dit « Je ne sais pas, je pense qu'il faut qu'on soit connecté avec eux, c'est ce que j'ai sur le cœur. » On allait dans un grand, grand rassemblement avec des milliers d'exposants, on s'est dit « On va les rencontrer là-bas. » On passait par New York avant d'aller à Nashville, donc à cette grande exposition. Et on atterrit à New York et là, on se rend compte que notre avion est reculé de 3 heures à cause d'une tempête de neige quelque part. Alors on va au salon Air France et le salon Air France nous refuse parce qu'on n'avait pas voyagé avec Air France dans le vol international. Alors bon, on se fait mettre à la porte et on se dit « Ok, on va marcher ». Alors on marche là dans les couloirs de cet immense aéroport, Newark. Et tout d'un coup, j'entends « Eric, Eric !» J'ai dit « C'est marrant, il y a quelqu'un qui appelle quelqu'un qui s'appelle comme moi. » Alors je regardais qui était le Eric en question et puis je vois que ce monsieur-là, il me regarde comme ça. « Eric, yes, you. »« Ah, me, yes, ok. » Et donc je m'approche du gars et il dit, en gros, il me dit « Tu me reconnais pas ?» Je dis « Pas vraiment. » Il me dit, mais moi je te reconnais, tu es Eric Sellerier de France. Je dis, oui. Il me dit, c'est toi qui t'occupes de Top Chrétien. Je dis, oui. Il me dit, moi je m'appelle Stuart Bennett, je suis directeur des projets spéciaux de CBN. Et mon avion a été annulé. Ah, nice to meet you. Et on a passé les 2 heures et demie qui nous restaient à discuter. Et aujourd'hui, CBN... C'est notre partenaire pour la Chine, c'est notre partenaire pour la Russie, c'est notre partenaire pour l'Inde, c'est eux qui font le suivi dans ces pays-là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus a promis cela. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Dans le livre des Actes, on voit beaucoup le Saint-Esprit à l'œuvre. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part, Paul et Barnabas ». Nous voyons de nombreuses manifestations de l'Esprit de Dieu. Il y a toutes sortes de manifestations de l'Esprit dans le livre des Actes. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » À chacun, la manifestation. Vous voyez, ce n'est pas juste pour une personne ou pour un pasteur ou pour un évangéliste, mais c'est à chacun, la manifestation de l'Esprit. Et ce mot « manifestation », c'est le mot « épiphanéia », qui a donné « épiphanie ». C'est un super mot, ça. L'épiphanie, c'est « waouh !» c'est la manifestation, et cette manifestation, on peut la comprendre de deux façons. Le Saint-Esprit lui-même qui est manifesté à l'homme, mais aussi le Saint-Esprit qui agit par les dons. Alors, le Saint-Esprit qui se manifeste, par exemple, quand il y a Jésus qui se fait baptiser, on voit le Saint-Esprit qui vient sous la forme d'une colombe, on voit le Saint-Esprit manifester sa présence, mais aussi le Saint-Esprit se manifeste par les personnes, par les dons, des dons spirituels, des miracles et toutes sortes de connexions divines. J'aimerais vous encourager à laisser le Saint-Esprit agir, à vous attendre à Dieu, à vous attendre au divin, au miraculeux. On aime Dieu. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant et agissant. Il fait des miracles. J'étais à Jérusalem il y a quelques années, Jacques Elbaz dit « Je rêve d'une école biblique ». Et on était dans la voiture avec plusieurs pasteurs, il y avait Claude Houde, tout ça, et on s'est dit « Waouh, super, c'est un beau projet ça ». Et Claude a dit « Moi je vais aider, je peux envoyer des profs ». Moi j'ai dit « Moi je peux aider, je peux faire la pub sur Top Chrétien ». Et Jacques a dit « C'est bien, merci pour votre aide, mais la chose la plus compliquée à Jérusalem, c'est de trouver un bâtiment ». parce qu'il y a le quartier musulman, on ne peut pas être dedans, il y a le quartier juif, on ne peut pas être dedans, il y a le quartier catholique, on ne peut pas être dedans, tout est divisé en quartiers, on ne peut pas avoir de bâtiment dans Jérusalem. Et il nous laisse ça, et puis 2-3 jours plus tard, on est là sur le perron de l'hôtel, et je dis, Jacques, tu sais, si j'étais toi, je chercherais un bâtiment à côté du jardin de la tombe, il y a un parking des bus, et je chercherais à cet endroit-là. Pourquoi je disais ça? Moi, j'en savais rien, Dieu le savait. Et il me répond, Eric, tu es fou, c'est le quartier arabe. Et j'ai dit, bien sûr, c'est toujours dans un quartier, de toute façon. Hein. Et ce jour-là, Jacques devait chercher un logement pour lui-même. Donc, il avait rendez-vous dans une agence immobilière parce qu'il avait besoin de déménager. Quand il arrive dans l'agence, la femme n'avait rien pour lui. Mais elle lui dit, vous faites quoi dans la vie? Et il dit, je suis pasteur protestant. Ah, il dit, et vous ne chercheriez pas un bâtiment? Et Jacques dit, mais oui, je cherche un bâtiment. Pourquoi? Elle dit, bah parce que j'en ai un, il appartient à un protestant aux États-Unis et j'ai le droit de le louer qu'à des protestants. Alors si vous êtes protestant, ça m'arrangerait de vous le faire visiter. Ah bon? Et il est où votre bâtiment? Elle dit, vous voyez le jardin de la tombe, il y a un parking des bus. C'est là. Il dit, je voudrais le voir. Il est venu nous prendre à l'hôtel, on est rentré là-dedans. Et effectivement, c'est dans le quartier musulman, mais c'est le dernier bâtiment qui fait la limite entre le quartier musulman et le quartier juif. La rue s'appelle la rue des prophètes. On a visité, il y a une dame dans les mêmes jours qui téléphone de France et qui dit « Vous n'auriez pas un projet en Israël ? Parce que je voudrais donner de l'argent. » On a dit « Si, si, on a un projet. » Elle a payé tout le réaménagement. Et le bâtiment a été pris, il y a eu de l'opposition. Il y a toujours des combats, toujours de l'opposition, bien sûr, dans tout projet. Et les musulmans ont fait un procès. Jacques s'est retrouvé au tribunal. Et le juge a décidé que c'était pour l'école biblique. Jacques est ressorti avec le papier comme ça. Il y avait une haie d'honneur de deux rangées de gens avec des barbes et qui n'avaient vraiment pas l'air contents. Et il a dit, c'est pour nous, c'est pour nous. Quand il est arrivé à l'école biblique, les portes avaient été changées par des islamistes, parce qu'avant, c'était eux qui louaient. Alors forcément, ils n'étaient pas contents. Dans le passé, c'était le quartier général du Hamas. Et donc, ils n'étaient pas contents. Et... ils avaient changé les portes, ils avaient mis des portes blindées. Jacques a fait ouvrir les portes, et si vous visitez l'école à Jérusalem, vous verrez qu'il y a 2 portes blindées qui ont été offertes gratuitement par des gens qui n'étaient pas contents. Gloire à Dieu! Dieu fait des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, je ne savais pas que j'étais en train de donner une prophétie, mais Dieu le savait. Est-ce que vous voulez vous attendre au divin, au miraculeux, au Seigneur dans votre vie? Si c'est votre désir, si vous voulez que le Seigneur utilise votre vie et vous voulez le voir agir, laissez le Saint-Esprit, juste mettez-vous debout à votre place et j'aimerais prier pour vous. Parce que la Bible dit à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Seigneur, merci. À toi toute la gloire et la louange. Merci pour le Saint-Esprit. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais j'enverrai celui que le Père a promis, le Saint-Esprit. Tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous croyons en cette parole, et je crois, Seigneur, que dans ce lieu, tu veux utiliser puissamment chacun, Seigneur. La manifestation de l'Esprit, c'est pour chacun. Et je te prie, tous ceux qui maintenant désirent cette manifestation de l'Esprit dans leur vie, qu'ils puissent te voir agir par des signes, des miracles, des prodiges, des dons spirituels, des connexions divines. Seigneur, tu n'es pas limité et tu veux manifester ta vie et ta puissance. On te donne toute la gloire et toute la louange dans tout ce que nous avons partagé ce matin. C'est pour ta gloire que la manifestation de l'Esprit est donnée. C'est pour ta gloire que les miracles et les signes et prodiges de l'Esprit nous accompagnent. C'est pour que ta gloire soit manifestée. Alors nous te donnons toute la gloire et toute la louange ensemble au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur continue de vous bénir.
On va rester debout un instant et je crois vraiment que ce n'est pas tout le temps que vous avez la possibilité de faire le point sur votre vie comme ça et de dire, Seigneur, il y a quelque chose qui peut changer. Ça commence par renoncement à d'autres choses. Eric a renoncé à quelque chose de tout simple, un bon projet de vie. Il a dit, je servirai l'Éternel en premier, quoi qu'il m'en coûte. Et on est là ce matin, certaines personnes sont debout et vous avez les yeux fermés et vous êtes vraiment en train de dire, Seigneur, mes yeux sont fermés, mais je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Celui qui demande reçoit. Si vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Est-ce que vous avez envie d'avoir une vie conduite par l'Esprit? Dans ce temps de silence, je pense que c'est bien de se recueillir et penser à ta vie, à ce que Dieu veut faire par ta vie. Si tu es jeune et que tu avais des projets, tu dis, Seigneur, ma vie, elle est pour toi. Pour que tes rêves deviennent des réalités, il suffit tout simplement que tu laisses Dieu les gérer. À sa façon, attention, il y aura des rêves qui vont être cassés parce que c'est des rêves humains. Et puis il y a d'autres rêves que tu n'as même pas idée aujourd'hui, qui seront de Dieu et qui vont se révéler progressivement, comme Eric, étape par étape, comme Abraham, étape par étape, le plan de Dieu se dessine. Mais il faut qu'il y ait un homme, une femme qui soit passionnée pour Dieu. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation de vie. Ça va commencer par des choix dans ta vie sentimentale, des choix dans ton emploi du temps. Seigneur Jésus, j'écouterai ce que dit Dieu. On va terminer ensemble en chantant ce cœur que c'est plus que des paroles, c'est une prière, c'est une intercession. C'est un choix de vie. Thank you. ce matin. Par le Saint-Esprit, Seigneur, remplis-nous de l'Esprit. Fais lever ici, Seigneur, des hommes et des femmes, quels que soient leurs âges, quelles que soient leurs limites, une génération pour toi. Seigneur, sers-toi de nous, que le feu du Saint-Esprit consume et brûle en nous toute tiédeur et nous donne d'être actifs et de rentrer dans tes projets, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen.